Bienvenue pour cette troisième émission de l'année. Il était une fois la politique. Après avoir évoqué la situation de la gauche française et le conflit israélo-arabe, nous consacrons ce soir notre émission à un sujet qu'on ne peut éviter, à savoir la guerre en Irak. Et donc pas question ici de faire des prospections hasardeuses sur le conflit qui se prépare. Nous allons essayer plutôt de voir ensemble pendant une heure comment les Américains voient leur politique par le biais de l'histoire des interventions des États-Unis dans le monde depuis 1945. Alors on a en France une grande tendance à rendre les Américains plus stupides qu'ils le sont. Les guignols de l'info font ainsi de W. Bush un niais au sommet de l'État, ou plus sérieusement, Noël Mamère, dans son livre « Dangereuse Amérique », s'exclame « Oncle Sam est devenu fou ». Bon, pour l'heure, afin d'essayer de comprendre pourquoi les États-Unis veulent aujourd'hui rentrer en guerre, il faut rappeler certaines choses utiles pour nous, jeunes étudiants innocents et beaucoup trop jeunes pour avoir vécu la guerre froide ou l'âge d'or de la CIA. Et pour cela, nous avons invité Francis Filet, professeur de civilisation à l'université Stendhal de Grenoble. Bonsoir, monsieur Filet.
Bonsoir.
Alors, ensemble, nous allons parler de la politique donc des États-Unis. Tout d'abord, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'il y a une opposition à la guerre encore aux États-Unis concernant l'Irak?
Oui, je suis directeur d'un centre de recherche et chaque jour, je reçois le courrier des Américains en Californie, Boston, New York, Georgia, Chicago, qui parlent de un mouvement qui est en train d'agrandir de plus en plus. En trois secteurs, le mouvement des étudiantes dans les campus, il y a maintenant les vingtaines de campus des grandes universités américaines où les milliers des étudiants sont organisés et chaque jour ça agrandit. Un deuxième milieu est le mouvement ouvrier, le syndicat qui commence d'organiser, on peut parler de ça un peu plus tard si vous voulez. Un troisième milieu où le mouvement anti-guerre se manifeste est dans les grandes villes de Chicago et il y a plus que 50 villes où le conseil municipal ont voté en majorité contre la guerre en Irak, contre l'intervention. Ça, c'est un mouvement social grandissant et assez important aujourd'hui.
Alors, pour comprendre la politique qui est menée actuellement par l'administration Bush, on parle souvent de l'importance du complexe militaro-industriel aux États-Unis. C'est quelque chose qui revient depuis longtemps. Eisenhower en parlait dès la fin de son mandat. Quelle est l'importance exacte du complexe militaro-industriel, par exemple, par rapport au budget de la défense? On dit souvent l'argent est le nerf de la guerre. Est-ce que ça correspond à la politique américaine?
Well, cette phrase, l'argent est le nerf de la guerre, est un peu simpliste. Le capitalisme est beaucoup plus complexe que l'argent. C'est le pouvoir, ce que l'argent achète et comment gagner l'argent, qui est vraiment important, pas la quantité d'argent. Alors, le pouvoir est sûrement dans l'industrie militaire aujourd'hui, mais ça aussi est complexe, parce que ce n'est pas tout simplement Lockheed, ou Boeing, ou McDonnell Douglas, les grandes manufactures des armes qui est importante, mais les industries militaires est partout, c'est-à-dire que dans la logique capitaliste, avoir un groupe de consommateurs est essentiel, les femmes, les hommes qui fument les mêmes cigarettes, qui portent les mêmes vêtements, qui mangent la même nourriture. Alors, les milliers de soldats est assez important à avoir ce marché. Alors, le contrat militaire est dans presque toutes les entreprises, soit 10 000 dollars, soit 60 000 dollars, soit 100 millions de dollars. Mais c'est vraiment le budget militaire est distribué largement aux États-Unis dans les entreprises.
Et donc, est-ce que ces forces, donc les entreprises, ce complexe, est-ce que c'est ce qui a poussé les États-Unis à intervenir de façon régulière depuis, on date à peu près 1945, de façon chronique, les interventions des États-Unis en Amérique latine, en Asie. Comment explique-t-on cela?
Oui, après la chute du mouvement fasciste en Europe et en Asie, il y avait une crise aux États-Unis. Vous savez bien, vous étiez une étudiante à moi dans mon cours de Sciences Po, que les Américains, avant d'entrer la guerre, étaient dans une crise économique, la grande dépression économique des années 30. Et c'était le bombardement en Hawaï, à Pearl Harbor, qui a fait sortir l'économie politique en crise. C'est-à-dire que les millions des Américains ont entré le militaire, les millions des autres femmes et noirs qui ont eu l'opportunité d'emploi inimaginable avant des années 40. De gagner beaucoup d'argent, d'avoir la liberté de chercher autre travail dans l'industrie militaire. Il y avait un manque de travailleurs et plutôt que chômage, on a fait le contrat avec Mexico d'avoir le bracero. Les milliers de Mexicains qui entrent travailler dans le champ agriculture, l'industrie agriculture d'Arizona, Texas, Californie. So, la guerre a fait sortir les États-Unis de cette crise économique. Et pour la classe dirigeante, pour l'industrialiste, pour l'élite politique, ils ont vu la fin de guerre comme une problématique. Quoi va éviter les États-Unis de rentrer dans la crise économique d'avant-guerre? Alors, sûrement la prospérité dans les années 40 pendant la guerre a provoqué l'économie est devenue plus forte, mais après, avec les millions de soldats qui entrent aux États-Unis de la guerre et les manques de besoins d'armement, le chômage a monté tout de suite en 45-46. Et à ce moment-là, le président Truman a déterminé qu'il faut arrêter cette chute. Il faut fabriquer un autre ennemi pour justifier la continuation de l'armement, de manufacture d'armement. Alors, la guerre froide était manufacturée par l'élite politique comme Harriman, Dean Acheson, Truman et les autres pour éviter les chutes économiques. Now, il y avait déjà là une voix dissidente. Il y avait Henry Wallace, le secrétaire d'agriculture, ou commerce plutôt, et autres gens qui ont résisté. Ils ont dit que le peuple américain ne veut plus subventionner le militaire. La guerre est gagnée, nous avons gagné, c'est terminé. Et maintenant, il faut retourner à une réorganisation de l'économie, de manufacturer les choses civiles. Ça c'était discuté, un débat ouvert, public, mais les industrialistes ont gagné. Vous savez que de recommencer de manufacturer les produits civils, on est obligé de refaire les usines. On ne peut pas arrêter tout de suite de manufacturer les battleships, les avions, les bombes, etc. et tourner vers la voiture et le chemin de fer. Il faut s'apprendre un an, 2 ans. Et un an de 2 ans manque de profit. Alors le capitaliste a dit non, non, nous voudrons continuer à manufacturer les armes, nous devons fabriquer un autre menace, un autre danger. Et l'Union soviétique était choisie à cause de l'idéologie anti-capitaliste. Stalin était un nationaliste conservateur, il était pathologue, il a tué les révolutionnaires internationalistes en Russie et ailleurs. Alors il n'était pas en danger. Dean Acheson, Harriman, ces gens ont compris ça. Alors ils ont compris aussi ce que les Allemands ont fait en Russie. Ils ont tué 10% de la population totale, 20 millions de personnes. En plus, ils ont détruit les ponts, les hôpitaux, les écoles, les usines. Non, la Russie n'était pas un danger pour les États-Unis. Il faut manufacturer cette menace, cette mythe, pour justifier la continuation de la manufacture des armes.
Et à ce sujet, donc, la première institution à avoir instrumentalisé cette peur du communiste, c'est, est-ce qu'on peut parler de la CIA comme d'un État dans l'État aux États-Unis? Parce que on a l'impression parfois que la CIA, après sa création à la fin des années 40, avait un pouvoir énorme. Et on entend souvent parler de la CIA pour Chili, pour Guatemala. On évoque même son nom pour les deux frères Kennedy et Martin Luther King. Quel est le pouvoir à cette époque de la CIA?
Oui, à cette époque, non, on ne peut pas parler d'un état, dans un état. En effet, c'est juste le contraire. Le OSS, Office of Strategic Services, était la police secrète américaine pendant la guerre. Et ils ont fait beaucoup d'interventions en Europe contre les nazis, contre le fascisme. Ils ont suivi une tactique Gestapo. Ils ont assassiné les gens fascistes. Et à la fin de la guerre, Truman a décidé qu'ils sont contre les traditions démocratiques américaines. On ne peut pas avoir le Gestapo américain, le OSS. Alors, il a dissolu cette organisation. Les Wall Street, les commerçants, les grands industrialistes ont voulu les marchés libres en Europe de l'Est. Alors, ils ont commencé d'organiser la police secrète pour faire un privé, de faire les interventions en Tchécoslovaque et ailleurs. Alors, quand Truman a pris ça, il a dit non, il vaut mieux avoir cette agence gouvernementale et pas privée. Alors, il a créé en 47 le CIA, le Central Intelligence Agency, pour éviter que l'armée privée, secrète paramilitaire privée, soit utilisée par les industrialistes américains. Le CIA était créé pour avoir un contrôle gouvernemental sur cette activité.
Mais est-ce que justement, au fur et à mesure, la CIA n'a pas eu une certaine autonomie vis-à-vis du gouvernement? On a dit par exemple lors de l'administration Kennedy, les conflits qui ont pu avoir lieu entre Dulles, Cabell et Kennedy lors de l'incident de la baie des cochons, la crise de Cuba qui a également provoqué des conflits entre l'état-major militaire et l'administration Kennedy. Est-ce que au fur et à mesure la CIA n'a pas eu une importance plus importante presque que les hommes politique qui était élu par le peuple américain?
Non, le CIA à cette époque a continué d'être sous le contrôle du président des États-Unis. Ça fait partie de l'executive, the branch of government, l'intelligence comme l'intelligence marine, l'armée d'air, etc. Le CIA n'est qu'un de plusieurs. Mais non, il n'était jamais à ce moment-là. On peut parler plus tard peut-être, mais à ce moment-là, des années 50-60, il était sous le contrôle. Eisenhower, c'est lui, le président, ancien général de la Deuxième Guerre mondiale, qui a proposé que le CIA commence à être activiste, c'est-à-dire engagé dans le sabotage et l'assassinat les gens. Eisenhower, c'était son idée. Il était respecté comme un général. Il a toujours pensé, on a raté l'opportunité d'assassiner Adolf Hitler, d'éviter la Deuxième Guerre mondiale. On va qualifier certaines branches du gouvernement d'entrer dans l'assassinat pour éviter une troisième guerre mondiale. Mais malheureusement, la politique a changé et plutôt qu'assassiner les fascistes, il a commencé à assassiner les socialistes comme Patrice Lumumba au Congo et Rafael Trujillo et autres gens socialistes qui étaient anticapitalistes pour l'indépendance. Sur Kennedy, alors, c'est Eisenhower qui a planifié l'invasion de la baie de Cochon et Kennedy a laissé aller. Mais il a utilisé le CIA comme un bouc émissaire en disant qu'il faut détruire le CIA. John Foster Dulles était forcé de démissionner et son frère aussi, directeur de CIA. Mais en effet, il était le responsable. Le CIA Ils sont les gens serviles. Ils sont les servantes. Un président ou un homme politique comme Kissinger a dit « Ah, je voudrais que ce pays doit stabiliser, c'est dommage qu'ils sont stables. » Le CIA saute, il dit « Oui, monsieur. » Et il essayait de faire plaisir aux politiques. Non, non, c'est un service servile qui essayait de donner tout ce que tu désires, dit le CIA, et mon commande. Je dois vous faire plaisir. N'est-ce pas? So, ils sont un peuple, une branche de gouvernement très, très, pas indépendante, mais plutôt branchée sur l'effort de faire plaisir aux autorités, d'assassiner les bons gens, de stabiliser les gens, même sans les demandes écrites. Ils essayent de faire plaisir. Now, ça aussi, parce que vous êtes intéressé sur les activités clandestines par le CIA, et la question est l'indépendance de CIA, ce que vous dites est possible, on peut accepter comme hypothèse que le personnel de CIA en retraite continue de pratiquer leur profession en retraite. C'est-à-dire qu'ils sont à vendre. Ils ont développé une spécialité et maintenant ils ne travaillent plus pour le CIA, mais pourquoi pas pour Standard Oil Company ou pour Honeywell Bull ou pour autres gens, vous voyez. So, ils ont développé une expertise.
D'accord, donc on va s'arrêter là donc pour la politique militaire des États-Unis. On va faire une petite pause musicale avant de revenir et de parler, disons, la spécificité de la politique américaine au Moyen-Orient.